franceinter.fr.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ?
L'écologie.
Et dans l'écologie, la diététique ?
C'est passionnant, ça.
Vous connaissez la doctoresse Kousmine ?
Non.
C'est un génie.
Et la macrobiotique ?
Ça, oui, un peu. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là ?
Ils disent qu'on mange de la merde.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Et oui, bienvenue dans ce magazine qui empêche de lasagner, de polluer, de réchauffer en rond, en tout cas qui essaie, qui prend le temps de ne pas aller trop vite, avec à la technique Vincent Godard et Ronan Mahé, et assisté de Stéphane Combe, et bien c'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Bon, alors évidemment, une petite humeur, tout le monde en a parlé, mais on va quand même y aller. On connaissait la malbouffe, il faudra désormais compter sur la malbeuf. Les cours de zoologie à l'école étant quelque peu boudés par ceux qui se destinent à une carrière dans l'agroalimentaire, eh ben on en arrive à des situations pour le moins paradoxales. C'est ainsi que les chevaux se retrouvent désormais dotés de cornes et meugles dans des barquettes surgelées. Alors, oh non, c'est pas de la manipulation génétique, hein, c'est juste une drôle de cuisine. Alors, petite recette qui peut faire un effet bœuf si l'on ne se monte pas trop à cheval sur les ingrédients. Donc, lasagne à la sauce d'Europe, vous le savez. Prendre des petits chevaux roumains qui trottinent dans le mauvais temps et qui ont bien du courage. Observez que franchement, ces canassons sur une route européenne, c'est carrément obsolète pour un continent aussi moderne. Et qu'en plus, c'est dangereux pour les autos qui circulent à tombeau ouvert. Donc, conduire les bestioles jusqu'à un abattoir low cost, les dépecer, les transformer en minerais de viande. Ah bah oui, parce qu'à ce stade, quand même inutile de chercher la moindre trace de considération pour l'animal abattu. Faire monter les prix du lot à l'aide de quelques traders, qui ont rarement les deux pieds dans le même sabot. Exporter la cargaison en Ovalie, où elle sera apprêtée avec le savoir-faire de Castelnaudary. On n'en est pas d'ailleurs à son coup d'essai en matière de transformation. Et à ce stade de la recette, il est conseillé de payer la livraison rugby sur longue. C'est très amusant. Cuisiner et congeler sans tarder à la mode suédoise dans une usine située au Luxembourg. Sans oublier d'apposer sur l'emballage une belle étiquette arborant fièrement pur bœuf. Voilà, c'est prêt, une merveille de traçabilité, hein, petit gourmand, qui va nous faire reprendre évidemment une louche d'Union européenne. Vous livrez sans tarder à travers toute l'Europe. Il n'y a plus qu'à passer au micro-ondes et ainsi ne pas perdre une miette des programmes télé qui attendent la disponibilité de votre cerveau pour vous vanter le bonheur de déguster d'autres plats cuisinés élaborés à partir de minerais de viande. Oui, alors entre deux bouchées, hein, n'oubliez pas de faire de l'exercice surtout. Il ne faut pas manger trop salé ni sucré. Pensez aussi aux 5 fruits et légumes insipides, certes, mais calibrés comme des boulons d'huître et brillants comme un 4x4 tout neuf. Mais heureusement, l'anglais perfide et soupçonneux. Et si la panse de brebis farcie à la menthe ne le fait pas sourciller, bien en revanche, l'odeur du crottin qui semble émaner des lasagnes pousse à ressortir les éprouvettes. Et là, scandale. La semaine prochaine, ce sera peut-être plus audacieux encore. Nous parlerons sur vos écrans à venir de ce prochain programme, les poissons nourris à la farine animale. Allez, bon appétit et vive le marché sans contrainte. Émission donc dédiée à la nourriture, parce qu'on va parler de la PAC dans quelques instants, donc à la politique agricole commune. Donc on va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Et puis un sujet qui n'est pas loin avec vous, Jean-Marie Pelt. Avant la PAC, on va parler aussi de la faim dans le monde. Et oui, on sait qu'à la fois, on n'a jamais produit autant de nourriture, qu'il n'y a jamais autant de victimes de la faim. Bon, nous serons en gros, à peu près, tout le monde s'accorde sur le chiffre de 9 milliards 300 millions en 2050. Donc quel est l'état de votre réflexion, on va dire, sur cette faim dans le monde, Jean-Marie Pelt ?
Actuellement, de la nourriture, j'allais dire, il n'y a pas une carence de nourriture, il y a simplement une désorganisation grave du mode de production et surtout du mode de répartition de la nourriture. Alors, on constate, par exemple, une différence en ce qui concerne la nourriture disponible entre les pays riches qui ont 4000 calories par jour disponibles pour eux avec à la clé l'obésité, parce que c'est beaucoup trop pour des populations comme les nôtres qui ne s'agitent pas beaucoup et qui sont très peu mobiles. Et dans les pays pauvres, ils sont en dessous de 2000 kilocalories. Alors là, c'est insuffisant, naturellement. Il y a toutes les maladies de malnutrition et ça touche en gros 1 milliard d'habitants.
Et aujourd'hui, on a plus de personnes qui sont en surpoids, on va dire, dans, oui, dans nos pays continentaux,
tout à fait.
Que de personnes même qui meurent de faim ou qui sont au seuil, c'est-à-dire à peu près 1 milliard. Quoi.
Tout à fait, absolument. Alors, comme on sera plus nombreux et qu'il faudra donc augmenter les ressources alimentaires, quelles sont les stratégies ? Première stratégie, constater qu'aujourd'hui, on gaspille 30% d'aliments. C'est effrayant. Mmh. C'est tout ce qu'on met à la poubelle. C'est tout ce que les hypermarchés mettent dans les poubelles. Avec interdiction pour les pauvres d'aller faire les poubelles. Vous savez comment ça se passe. Alors il faudra évidemment modifier gravement et profondément ce chiffre pour gaspiller beaucoup moins. Deuxième constat, il faudra diminuer la consommation des produits animaux, de la viande, parce qu'on a ici aussi des chiffres qui sont très parlants. Pour obtenir 1 kilocalorie de viande, il faut au moins 3,5 kilocalories de végétaux.
Ça, c'est pour la viande blanche, d'ailleurs.
Absolument.
Parce que c'est plutôt 8 à 10 pour la viande rouge.
Pour la viande rouge, c'est plus. Absolument. 8 à 10. Vous avez tout à fait raison. Vous connaissez bien les chiffres, Denis. Bravo. Ensuite, il y a le problème des réserves d'eau qu'il faudra pour irriguer des régions où il y aura de très grandes sécheresses. Donc, il faudra trouver, comment dirais-je, un équilibre entre l'obligation de faire des barrages et des réserves d'eau, et en même temps l'obligation de ne pas, avec les barrages, bousiller des écosystèmes végétaux intéressants. Donc là aussi, il y a une démarche écologique qui devra être faite, mais on va se réconforter avec ce rapport de la FAO, qui est l'organisme des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui, en mai 2007, a dit qu'on pouvait nourrir la planète, c'est-à-dire 9 milliards d'habitants en l'an 2050, avec du bio, ça c'est extraordinaire, oui, à condition d'adopter des bonnes pratiques agricoles. Et ils ont reconfirmé ceci dans un nouveau rapport en décembre 2010. Et ils parlent d'une agriculture écologiquement intensive. Alors c'est quoi ? On va prendre un seul exemple pour qu'on comprenne bien, parce que ça c'est extrêmement important. Dans un livre que j'ai écrit avec M. Mazoyer et Théodore Monod, qui s'appelait « La plus belle histoire des plantes », M. Mazoyer, qui est un grand agronome français, a expliqué que pour le riz, au lieu de faire des rizières comme on les fait d'habitude, comme tout le monde les voit, avec des petits talus pour conserver l'eau, ben sur les petits talus, on va planter des papayers. Entre les papayers, on va planter des légumes. Dans la rizière, on va élever des crevettes. Et par conséquent, le rendement de la rivière pourra doubler, voire tripler, en production agricole diverse. Les spécialistes de l'agronomie de l'Université Cornell à New York travaillent à Madagascar et eux ont fait toujours sur le riz une découverte fantastique, c'est que le riz n'a pas besoin de toute l'eau qu'on lui donne. Et donc si on diminue les apports d'eau au riz, en les répartissant autrement dans la saison, on double, voire on triple la production de riz, sans pour autant bouleverser par des intrants chimiques, par des pesticides, les grands équilibres naturels. Alors, c'est dans ce sens-là qu'évidemment, il faudra aller si on veut assurer une nourriture pour tous.
Et puis, il faudra aussi une vraie volonté politique, hein, Jean-Marie.
Il faudra une vraie volonté politique pour qu'on puisse assurer la sécurité et l'autonomie alimentaire de chaque pays. Alors là, on est devant la difficulté que tout le monde connaît, c'est que les pays riches, avec le machinisme agricole, la révolution verte, les intrants, les engrais, les pesticides, produisent à relativement bas prix sur le marché international.
Et les plus pauvres, et eux, ne peuvent pas, ils doivent importer de la nourriture, parce que celle qu'ils produisent, de toute façon, coûte plus cher,
tout à fait.
La leur n'étant pas subventionnée.
Absolument, et par-dessus le marché, on les pousse à produire du cacao et du café et du coton qu'ils vont exporter pour que leur dette ne soit pas trop grande. Enfin, c'était la position de la Banque mondiale en continuellement.
Qui a affamé beaucoup de gens, la Banque mondiale, pour le dire.
Tout à fait. Mmh. Alors, dans ce cas-là, elle était complètement à côté de la plaque. Il faudra que les pays pauvres puissent avoir une autonomie alimentaire et donc ne plus faire autant peut-être de café, de cacao, mais de faire des cultures vivrières. Alors, pour conclure, on retombe toujours sur la même conclusion dans tous les domaines, c'est qu'il faudra que l'agriculture mondiale cesse d'être sous la domination des marchés. Ah, les marchés. Alors, on revient à Chicago, il y a la Banque internationale des marchés agricoles. Oui. Alors, il y a 4 multinationales. Il y en a 3 qui sont américaines. L'une commence par A, l'autre commence par B, l'autre commence par C. La plus importante, c'est Cargill, C. Il y en a une qui est française, c'est Dreyfus, D. C'est pourquoi on dit c'est le groupe ABCD. C'est là que ça spécule fort, ouais, sur les céréales, par exemple. Bon, ben, je fais une proposition. Vous vous souvenez que la France s'est manifestée à l'Organisation mondiale de la santé pour qu'il y ait une exception culturelle. Nous avons d'ailleurs été entendus. Ben, il va falloir avoir une exception culturelle. C'est-à-dire qu'il faudra que l'agriculture soit considérée comme n'étant pas apte à être soumise, comme pour toute autre matière première, à la stricte loi quasi impériale des marchés. Et ça, je crois que c'est l'étape suivante dans le domaine des progrès à faire en matière agricole, si nous voulons vraiment nourrir les fameux 9 milliards d'habitants.
Il y a encore de la résistance, mais on peut y arriver.
Non, mais on y arrive petit à petit.
Merci Jean-Marie et à très vite. Au revoir Jean-Marie Pelletin.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Allez, on va passer maintenant au sujet suivant, mais c'est un peu la suite, avec la politique agricole commune. Mais auparavant, allez, sans Severino, ça va nous faire du bien. C'est parti.
Mais y a rien de rien dans la tête à Freddy. Dans les bigorneaux, y a du manganèse. Il y a de la pectine dans les chevrotines, électricité dans l'acide citrique, dans le patchouli il y a des brocolis, mais il n'y a rien de rien dans la tête à Freddy. Mannequin de province pour slip de chasse, pour gilet de sauvetage et bottes de voile, il est sombre et lourd comme un ampli de basse, il est vide et creux comme un os à moelle. J'y peux rien, c'est ton nouveau mari, Freddy. Il est tout pâle, il est tout diabétique. Mais toi ton Freddy, tu l'as dans la peau, il est tout morose, il est tout dramatique. Mais c'est ça qui te plaît, tu l'adores ce salaud. J'suis pas jaloux d'un mec comme lui. La Saint-Valentin, ça l'a tous un du slip. Il a déboulé les bras chargés de cadeaux. Un robot mixeur et un bouquet de tulipes. Une bague à crédit et un sac à guano. Tu l'as refoutu dans sa mairie, Freddy. Tu l'as refoutu dans sa mairie, Freddy. On n'a jamais pu dire si vous êtes fécond de Buzzville, du Havre ou bien d'Alençon, Tancarville, de Bricbec, de Bolbec ou de la banlieue de Caen. À la gare Saint-Lazare, il s'est pris un méchant bifton. Il est retourné dans sa Normandie, Freddy.
Ah, mais il envoie du texte, hein, sans Severino, Freddy, qu'on a envie de rencontrer dans sa Normandie. Alors, nous sommes en fait dans l'actualité, parce qu'on est dans la dernière ligne droite pour la définition de la politique agricole commune, qui est cruciale pour l'avenir des paysans, des territoires et des consommateurs européens. Donc on est en cours de renégociation pour la prochaine période, hein, 2014-2020. Chaque contribuable que nous sommes en fait verse autour de 100 euros hein, quand même pour cette PAC qui représente 35-40% du budget européen. Ça dépend un peu comment on compte. Elle a été mise en place en 1962 avec un but, augmenter la production alimentaire dans une Europe qui était dévastée. Elle a d'ailleurs parfaitement réussi. Bon, il y a quelques légers soucis à côté. Alors la PAC, comment ça marche? Pourquoi est-ce qu'elle manque d'équité aujourd'hui? Certes, il n'y a pas un agriculteur ni une forme d'agriculture, on est bien d'accord, il y a des dizaines de manières de faire. Alors on va rejoindre un député européen qui est vice-président de la Commission agricole et du développement rural. José Bové, bonjour à vous. On va faire aussi un peu de météo dans l'Aveyron cet après-midi parce que on vous appelle chez vous sur le causse du Larzac, non loin des brebis.
Bonjour. Écoutez, sur le Larzac, il fait entre 0 et moins 1 degré, il y a de la neige. Le soleil essaye de percer. En tout cas, ce qui est très bien pour le sol, c'est cette neige qui recouvre. Donc, il y a de l'eau qui rentre très doucement. Comme ça, les céréales ne gèlent pas. Quand elles sont à nu, à cette époque-ci, parfois, on craint le gel. Les brebis sont à l'intérieur. C'est l'agnelage. Et donc, d'ici quelques semaines, eh bien, le lait pourra sortir des pies des brebis et faire du fromage.
Voilà. Bah, écoutez, on est déjà dans le sujet, même si on est dans l'agriculture, on va dire, de montagne. Alors, rappelez-nous, José Bové, comment fonctionne la PAC et quels sont donc ces deux fameux piliers dont on parle régulièrement?
Alors, tout à l'heure, il a été rappelé que la PAC a été mise en œuvre en 1962. Au départ, trois objectifs, nourrir les Européens, faire en sorte que les consommateurs aient des prix stables et troisièmement, que les agriculteurs aient un revenu équivalent aux autres catégories sociales. C'était les trois objectifs du traité de Rome. Dans les premières années, la politique agricole, pour augmenter la production, a soutenu les prix en versant un complément pour chaque kilo produit. Ça a mené évidemment, au bout d'un certain nombre d'années, la satisfaction, l'autosuffisance de l'Europe, mais en même temps la contrepartie, ça a été la naissance d'excédents. Ces excédents ont coûté une fortune à l'Europe, donc on a géré différemment, on a maîtrisé les productions, on a mis en place des systèmes pour réguler l'offre et la demande, c'est ce qu'on a appelé les fameux quotas, par exemple, pour le lait de vache, et donc ces systèmes ont duré jusqu'en 1992, où les négociations pour créer l'Organisation mondiale du commerce ont donné naissance à des nouvelles règles internationales qui se sont appliquées à partir donc des réformes de la PAC en 1992, 1999 et 2003, où on est passé de l'aide aux produits, donc de l'aide aux quantités, à l'aide à l'hectare. Donc en fait, on a eu une aide qui n'a plus été versée en fonction de la production, mais une aide qui a été versée en fonction du nombre d'hectares et du type de culture qu'on mettait en place. Ce qui fait que, par exemple, si on faisait un hectare de maïs irrigué, eh bien, on touchait à l'époque en francs dans les 3500 francs de l'hectare. Si on faisait un hectare d'herbe, on touchait 300 francs. Et ça, c'était multiplié par le nombre d'hectares. Cela a duré jusqu'à aujourd'hui. Ça a été modifié ensuite, mais globalement, ce système est resté.
Merci donc pour cette première partie, on va dire, tout à fait pédagogique. Alors donc, cette réforme en discussion dont on parle donc sera votée au mois de mars prochain au Parlement européen. Et donc, elle a pour but de changer théoriquement les règles du jeu. Mais alors, José Bové, en faisant quoi?
En à la fois sortant de ce système historique qui était injuste, puisque 20 ans après, on ne comprend pas pourquoi quelqu'un toucherait plus que l'autre à l'hectare. 80% des aides vont à 20% des agriculteurs en fonction des critères précédents dont j'ai parlé. Il y a des différences entre les pays à l'intérieur de l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui est très important et qui concerne vraiment, alors là pour le coup, les auditeurs qui nous écoutent, c'est ce qu'on appelle le verdissement de la politique agricole, qui était l'idée au départ que 30% de l'enveloppe des aides qui va aux agriculteurs soit liée en fonction de pratiques agricoles qui permettent de réorienter l'agriculture pour protéger l'eau, empêcher l'érosion des sols, maintenir et développer la biodiversité, c'était les objectifs. Malheureusement, on verra dans la discussion qu'on est en train de s'éloigner, là aussi, des objectifs initiaux et que malheureusement, les réponses qui sont aujourd'hui apportées, que ce soit par les ministres ou par un certain nombre de députés, va complètement à l'encontre. Donc ça, c'était le deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'était avoir un développement rural, c'est-à-dire un deuxième pilier. Donc premier pilier, les aides directes. Deuxième pilier, les aides au développement rural, qui normalement doivent servir à aménager les territoires, à conforter ce qu'on appelle donc les pratiques écologiques, mais aussi développer une nouvelle façon de lier le producteur au consommateur. C'est par exemple le financement d'abattoirs de proximité qui pourrait se faire de cette manière-là, dans le moment où on parle de cette dérive de l'agroalimentaire sur la viande, on voit bien que ramener des abattoirs de proximité aurait évidemment du sens, et développer les marchés locaux, les marchés de producteurs, enfin bref, tout ça peut être financé par ce deuxième pilier. Donc on a ces deux piliers, l'un représente entre 70-75%...
Ça c'est pour le premier pilier. Hein.
Le premier pilier, les aides directes, et 20% pour le deuxième pilier. Je termine en disant que dans la discussion qui vient d'avoir lieu entre les chefs d'État et de gouvernement donc la semaine passée, malheureusement, contrairement au cocorico français, eh bien, la PAC va être amputée, et notamment le deuxième pilier, malheureusement, je le dis, parce que ça veut dire qu'il y aura moins de moyens pour financer ce rapprochement du producteur au consommateur, et que ça risque même de passer à la trappe, puisque les chefs d'État et de gouvernement ont accepté l'idée qu'une partie de cette enveloppe puisse servir à payer des assurances, donc à financer des assurances pour les agriculteurs en cas de perte de revenus, ce qui est pour moi évidemment un non-sens par rapport à l'objectif premier.
Alors ça, on va pouvoir effectivement y revenir. Pascal Ferré, je me tourne vers vous grâce à nos amis de France Bleu Basse-Normandie, puisque vous êtes à Caen. Vous êtes vous-même éleveur, donc vous appartenez à la FNSEA, donc le syndicat majoritaire en France, on le sait. Et vous êtes, on va dire, un peu le monsieur environnement de cette FNSEA, bon, qui n'est pas forcément non plus totalement homogène hein, sur ses sensibilités. Mais cette PAC, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce qu'elle est satisfaisante, on va dire, aujourd'hui? En sachant ce que José Bové nous a rappelé, c'est qu'aujourd'hui, 80% donc des aides vont à 20% des agriculteurs.
Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, au niveau de la FNSEA, en fonction de ses territoires, de ses productions, les avis divergent. Est-ce que la PAC a rempli ses objectifs? Je pourrais dire jusqu'en 1990, oui, elle a nourri sa population. Nous avons amené des prix stables pour les consommateurs, certes avec sa cohorte d'excédents qui ont coûté très cher et qu'il fallait absolument réguler. Là, je ne reprends pas les propos de José Bové. La seule chose quand même qui a été, et dans le fossé s'est creusé, c'est le revenu des exploitants agricoles à l'intérieur de l'État et de l'Union européenne. Il y a le revenu des agriculteurs, des éleveurs, les revenus des productions végétales, des céréaliers, et puis il y a ceux qui ne sont pas accompagnés d'aide. Effectivement, en période de disette, il faudra faire des choix. On parle toujours des grandes exploitations céréalières, mais je voudrais aussi qu'on parle aussi des éleveurs, qu'ils soient du Larzac ou de la Manche, sont les grands perdants, soit parce que les éleveurs ont fait des efforts d'intensification, parce que nos structures sont en général plus petites, nous avons fait le choix des hommes sur les territoires, et le bas normand que je suis n'est pas peu fier de dire que grâce à la volonté de la profession agricole, avec bien sûr l'endroit politique, la Basse-Normandie, la première région agricole en termes d'actifs, 7% de la population active travaille pour l'agriculture et l'agroalimentaire.
Alors que la moyenne est à peu près de 3%, on va dire, en France.
La moyenne est à peu près de 3%, effectivement. Et si, effectivement, on reste dans l'essence même d'aller vers des aides uniques hectares à terme, ce qu'on appelle la convergence, vous redonnerez, enfin, ce seront les éleveurs laitiers, les éleveurs viande bovine qui ont les revenus les plus faibles, qui iront donner de l'argent aux exploitations les plus grandes en termes de surface.
C'est-à-dire que, en plus, on va dire, un éleveur, s'il a des terres, il a plutôt intérêt aujourd'hui à les retourner et faire du maïs, pour faire très simple.
L'Europe a oublié quelque chose, elle est devenue très libérale, et c'est là que je voulais en venir. Et dans le libéralisme, on veut faire simple. C'est-à-dire qu'en deux temps, ça c'est un concept très libéral anglo-saxon, en mettant une prime unique à l'hectare sur tous les hectares, on règle le problème d'expliquer à nos compatriotes, aux contribuables, pourquoi effectivement une exploitation laitière, viande bovine, aurait 350 euros par hectare, quand quelques autres en production d'herbes ou en production de céréales en auraient moins. Ce raisonnement conduit effectivement à courir derrière les hectares, chercher à s'agrandir à tout bout de champ et retrouver effectivement ce qui se passe dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, presque plus de paysans. Et ben, c'est pas l'objectif de la FNSEA sur ce point. Et puis, dernier point, on ne l'évoque plus. Cette PAC libérale que l'on connaît depuis 92 emmène le monde agricole dans le mur. Et on le voit encore sur le secteur laitier. Le secteur laitier aujourd'hui est totalement dérégulé. Le secteur laitier aujourd'hui est aux prises du marché mondial avec des intrants, c'est-à-dire des achats de matières premières, soja, colza, maïs, céréales, qui flambent parce que quelques traders internationaux s'amusent à jouer indifféremment un jour avec le pétrole, le lendemain matin avec les céréales, affament des populations et met une économie agricole en l'air. L'Europe n'essaie pas de corriger en faveur des éleveurs les inéquités de traitement financière. Et sans aide, on ne peut pas s'en sortir.
José Bové, à qui ça profite? Parce que quand même, derrière, il y a des gens qui ont intérêt à ce que ce système perdure.
Alors, aujourd'hui, il faut le dire très clairement, le modèle qui est en place au niveau européen, c'est le modèle agro-industriel. C'est l'agrandissement des exploitations, céréalières bien évidemment, mais je dirais aussi une industrialisation de l'élevage avec le projet qui se développe dans la Somme, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, le projet dit des 1000 vaches, qui est en gros un industriel qui veut investir dans la production de lait, non pas pour vendre du lait et de la viande, mais pour mettre en place derrière un gigantesque méthaniseur pour faire du gaz et pour faire ensuite vendre de l'électricité. Là, on voit très bien la dérive d'un modèle. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce qui est développé. Si on veut changer ce modèle, c'est d'abord le plafonnement des aides. Aujourd'hui, il n'y a aucun plafond. Plus on a d'hectares, plus on a d'aides.
C'est pour ça que la reine d'Angleterre, par exemple, ou bien que le prince de Monaco, sont aussi des gens qui, à mon avis, ne touchent pas une bêche de la journée, mais touchent énormément d'aides.
Tout à fait. Et il y a aussi des terrains de golf, des terrains d'aviation, qui aujourd'hui touchent des aides PAC dans un certain nombre de pays européens. Donc ça, c'est un vrai scandale. Donc c'est pour ça qu'il y a une idée qui va être proposée au Parlement européen, qui va être votée au mois de mars, qui est de plafonner les aides directes à 100 000 euros par exploitation, ce qui permettrait de dégager 5 milliards par an pour financer soit le verdissement, soit d'autres projets européens. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre entre l'élevage et les grandes cultures céréalières.
Alors, il y a aussi une proposition française tout à fait intéressante qui est de doubler les aides aux exploitants de moins de 50 hectares, qui est la moyenne française. On rappelle quand même que 25% des agriculteurs vivent quand même aujourd'hui au SMIC. Alors, on va partir maintenant dans le département du Lot-et-Garonne. Oui, avec cet homme que vous connaissez. Très beau territoire agricole et vraie sensibilité donc à la nature. Allez, le Chenillège.
Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je, est-ce que tu penses à nous un peu? Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige, turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeux. Dans nos attelages, des gens de raison, de courage, dans tous les camps, de tous les âges, dont le seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là? Êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent? Millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare où le ciel est-il vide et creux, adossé à un chêne liège, pris comme dans les fils d'un piège. Je descendais quelques arpèges, je n'avais rien trouvé de mieux. Thank you. mais c'est le doute et le mystère que vous m'aurez appris le mieux, adossé à un chêne liège. Je descendais quelques arpèges par un après-midi pluvieux. Je descendais quelques arpèges par un après-midi pluvieux.
Hé hey oh! Je te rappelle que ça fait trois fois que je paye le téléphone et l'électricité.
C'est moi qui ramène la bouffe.
Ah oui, tout ce que tu ramènes, tu le piques.
Et alors?
Du gruyère, des steaks surgelés, des sardines en boîte, du poisson pané. On bouffe que des trucs carrés. Dis donc, je te parle de vraie nourriture, moi. Tu comprends? Une laitue, par exemple. Pique une laitue la prochaine fois!
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Voilà, donc après ces petites courses délicieuses et ce chêne-liège, on remerciera Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur, pour cette balade que l'on aime. Revenons donc à notre PAC avec cette aide de à peu près 9,5 milliards d'euros pour la France. France qui touche à peu près 20% donc des aides européennes agricoles. Alors chacun veut évidemment sa part de gâteau. Les céréaliers dominent largement, on l'a compris, d'énormes coopératives. Il y a quand même un petit constat à faire. Bon, 50 exploitations par jour disparaissent au minimum. Des paysans qui ne sont plus maîtres de leurs semences. Certes, on a nourri l'Europe, mais on a occulté longtemps les conséquences environnementales de l'industrialisation des campagnes. Alors, érosion des sols, perte de biodiversité, eau dégradée, bon, tout ça vous connaissez si vous êtes auditeur de CO2 Mon Amour. Une agriculture donc, qui repose depuis 60 ans sur l'avènement donc, du pétrole, des conséquences qui sont payées par la collectivité. Alors, Pascal Ferré, dont je le rappelle, responsable environnement de la FNSEA, l'avenir demain, qu'est-ce que ça peut être ?
Si on veut effectivement faire simple, et ça c'est la mentalité bruxelloise, le faire simple c'est on fixe des aides à l'hectare, point barre. C'est ce qui est en train de se mettre en place. Et je dis, nous disons à la FNSEA que cette réponse n'est pas la bonne, la convergence des aides n'est pas la bonne référence. Il faut effectivement avoir un socle de base. Le socle de base, ce sont des aides à l'hectare pour l'ensemble des agriculteurs français et européens. Qu'il faille les plafonner, je peux vous dire que je n'ai pas d'opposition et à la FNSEA, on n'est pas opposé sur le principe de voir des sociétés importantes, françaises, européennes, toucher plusieurs centaines de milliers d'euros, ça me choque. Alors que nous avons des agriculteurs qui touchent quasiment rien, c'est choquant. Alors c'est à l'Europe de régler ce problème vite fait, on n'en parle plus. Sauf qu'il faut avoir des majorités qualifiées. Et les Britanniques sont opposés, les Allemands sont opposés, les Italiens, les Espagnols sont un peu opposés. Donc ça va être beaucoup plus compliqué à mettre en place que de le faire passer. Et que l'on soit encore à courir derrière les hectares pour courir derrière des primes, c'est, à mon avis, le dernier exercice financier de cette PAC 2014-2020 où il faudra trouver où est un peu plus inventif. Il faut qu'on change de paradigme ou autrement, je vous prédis une catastrophe européenne, c'est qu'on va diviser le nombre de paysans par deux. Et moi, je suis désolé, l'éleveur que je suis et le responsable syndical de la FNSEA que je suis préfère avoir des voisins que des hectares.
Alors Samuel Ferré, cette fois-ci dans notre studio, vous n'êtes pas la même famille que Pascal Ferré. Hein. Vous êtes coordinateur du groupe PAC 2013 qui regroupe de nombreuses ONG. Alors pourquoi maintenant verdir la PAC ? On va parler de ce verdissement qui est d'ailleurs soutenu par Dacian Ciolos, qui est le commissaire européen en charge de l'agriculture, qui a fait des propositions législatives de verdissement de la PAC, et donc lesquelles ?
La première raison, c'est d'apporter une réponse au manque de légitimité des aides directes actuellement, puisque ce sont des aides qui sont censées soutenir le revenu des agriculteurs, mais qui ont une finalité assez floue, parce que on ne prend pas en compte le niveau réel de revenus des agriculteurs pour les soutenir, ni on ne prend pas non plus le niveau réel de patrimoine des agriculteurs. C'est pour ça que la distribution est très inéquitable.
C'est-à-dire qu'il y a ce fameux syndrome, ça c'est les céréaliers qui le disent eux-mêmes, je parle bien des très gros céréaliers, le syndrome CCC, c'est-à-dire canne, céréales, courchevel. Voyez donc, alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, on est bien d'accord, loin de là, mais c'est entre eux, ils disent ça. Ça, c'est vraiment les gros toucheurs.
Alors sans doute, mais la proposition initiale de la Commission était de dire, ben voilà, à l'avenir et à l'horizon 2020, l'Union européenne va continuer à soutenir les agriculteurs, le revenu des agriculteurs, mais en contrepartie, il faudra faire un petit peu plus d'efforts sur les pratiques agro-environnementales et les pratiques agronomiques.
Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut être ? Parce que donc M. Ciolos donc a amené quand même quelques propositions qui ne sont pas inintéressantes.
Alors, il a amené des propositions, mais pour terminer sur la deuxième raison, c'est que l'intégration de l'environnement dans la PAC depuis 1992 a été hyper progressive et assez lente d'une certaine façon. Il y avait jusqu'à présent deux instruments, deux façons de faire. D'un côté, le bâton, c'est des règles, des règlements, des directives à respecter. Et de l'autre côté, vous avez des dispositifs volontaires, facultatifs. Ce sont les mesures agro-environnementales. Mais là, les gens qui s'engagent dans ces mesures agro-environnementales, ce sont très souvent des gens qui le font parce qu'ils sont motivés. Mmh. Historiquement, c'était les pionniers. Hein. Et entre les deux, 20 ans après, on s'aperçoit qu'il y a un gap entre ce dispositif de la carotte et ce dispositif du bâton. La Commission a dit, voilà, on va essayer d'établir un pont et on va proposer que 30% des aides directes soient consacrées à un paiement pour des pratiques bénéfiques au climat et à l'environnement, et en s'appuyant sur trois mesures simples pour tous les agriculteurs européens. La première mesure, c'est ce qu'elle a appelé la Commission la diversification des assolements, notamment pour les producteurs de grandes cultures, qu'ils aient un minimum de trois cultures différentes sur la sol cultivée, notamment en céréales. La deuxième mesure proposée, c'est la protection des prairies permanentes, à 95% pour les éleveurs principalement qui ont des références en prairies permanentes. La troisième principale innovation entre guillemets de ces mesures de verdissement, c'est de consacrer sur chaque exploitation agricole au moins 7% de surface d'intérêt écologique. Mmh. Et ces surfaces d'intérêt écologique sont définies par la Commission comme des éléments fixes du paysage, c'est-à-dire des particularités topographiques. On va parler des alignements d'arbres, des haies, des talus, des bosquets, des terrasses, etc. Et qui jouent un rôle de régulation aussi dans les agroécosystèmes, notamment, on va prendre l'exemple de l'eau, hein, la rétention des eaux qu'assume la haie. Et de dire ainsi, ben voilà, la durabilité à terme de l'agriculture européenne, eh bien, elle doit se construire sur une meilleure synergie entre écosystèmes, agro-écosystèmes, d'où l'importance de ces infrastructures agroécologiques.
Alors oui, donc, mais Samuel Ferré, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la commission de l'agriculture du Parlement est en train de s'aborder, on va dire, les mesures les plus importantes qui sont proposées par le commissaire Dacian Cialos. Mais comme on a envie de choses aussi positives, je me tourne vers vous, Jean-Jacques Fresco, parce que vous êtes rédacteur en chef de Terre Sauvage. Vous êtes à France Bleu, pays de Savoie, et donc Terre Sauvage, partenaire depuis très longtemps de CO2 Mon Amour, dans ce numéro de février. J'ai sous les yeux, les nouveaux paysans réinventent l'agriculture, ils favorisent la biodiversité, produisent des aliments sains, ils ont de meilleurs rendements et ils vivent mieux. Donc c'est un numéro spécial quand l'agriculture protège la nature, avec l'état d'esprit évidemment de Terre Sauvage.
Vous savez, Terre Sauvage, c'est un magazine qui s'intéresse à la nature, à la biodiversité, à la relation de l'homme et de la nature. Et le constat qu'on fait, c'est que malheureusement, c'est dans les milieux agricoles que, de façon ordinaire, la biodiversité, depuis quelques dizaines d'années, va le moins bien. Et du coup, à l'occasion de cette renégociation de la PAC, on a eu envie d'aller voir ces paysans, qu'on a appelé, nous, ces nouveaux paysans, qui travaillent non pas contre la nature et contre la biodiversité, mais avec. Et j'ai le sentiment qu'on a rencontré, pendant qu'on a fait qu'on a travaillé sur ce numéro, les gens qui répondent beaucoup aux interrogations qui ont été évoquées depuis le début de l'émission. On a l'impression d'avoir des gens qui ont auto-verdi l'agriculture sans attendre que la PAC le fasse ou les aide à le faire, et même en dépit d'un système d'aide actuel de la PAC qui ne va pas dans ce sens-là. Et on a rencontré des gens qui, d'une part, développe une agriculture extrêmement moderne, qui a une pertinence économique, qui a fait la démonstration, on va dire, d'une pertinence économique, et effectivement, qui, eux, on a parlé tout à l'heure de la question du revenu des agriculteurs, on a rencontré des gens qui ont des revenus supérieurs à ceux de leurs collègues qui n'ont pas fait le choix d'une agriculture qui travaille avec la nature et pas contre, par des intrants chimiques à outrance, etc. J'essaie d'éviter le terme bio parce que ça ne se résume pas à de l'agriculture bio, c'est beaucoup plus large que ça. Ce sont des pratiques beaucoup plus diversifiées que simplement l'obtention d'un label bio. Mais j'ai le sentiment qu'en travaillant sur ce numéro, on a rencontré l'agriculture d'après. On a rencontré l'agriculture qui nourrira les populations européennes. Alors, on pourra parler Nord-Sud aussi, mais qui nourrira les populations européennes dans les décennies qui viennent. Ces gens-là sont les pionniers de cette agriculture-là. C'est pour ça qu'on a titré ce numéro Les Nouveaux Paysans et qu'on dit qu'ils réinventent l'agriculture.
Alors Jean-Jacques Fresco, j'ai sous les yeux donc un article qui s'appelle Le pouvoir des fleurs. Et on va parler aussi des prairies fleuries. Tenez, je vous amène dans le massif des Bauges, qui est très beau. On n'est pas très loin de Gruffy, pas très loin du Châtelard. Et vous allez comprendre ce que sont des prairies fleuries.
Une prairie fleurie, c'est quelque chose qu'on a inventé, nous, au parc, avec les agriculteurs. On a dit une prairie fleurie, c'est une prairie qui a au moins 4 plantes indicatrices de qualité qu'on a fixées. On en a 24 en tout. Et donc, toutes les prairies fleuries, pour nous, c'est des prairies qui ont ces 4 plantes réparties de façon homogène sur la prairie.
Ce sont lesquelles ?
On a des plantes qui sont spécifiques au milieu sec. La sauge, le sainfoin, vous allez voir, la geste, le lotier. Dans les prairies avec des sols plus gras, on va avoir des plantes comme la marguerite, le salsifis des prés, les knossis, les centaurées, des choses comme ça. Donc chaque prairie, j'allais dire, aura ces types de fleurs. On n'aura jamais les 24 plantes en même temps, mais on va retrouver dans tous les cas des prairies avec beaucoup d'espèces de plantes.
Alors là, vous entendiez Philippe Mestelman, qui est technicien, qui était technicien au parc naturel régional des Bauges, qui était vraiment à l'initiative de ces prairies fleuries avec son directeur Michel Delmas. Vous avez aussi une interview qui est très très bien de lui dans ce numéro de Terre Sauvage. Et c'est intéressant de voir un peu ce mariage entre la vache, la fleur et aussi l'abeille. Donc nous retournons dans ce parc naturel régional des Bauges. Et là, on va rencontrer à la fois Jean-François Domange, qui est éleveur, et puis aussi Pierre Marigot, qui est apiculteur. Pierre Marigot, vous élevez des bêtes quand même qui sont aussi extrêmement fragiles parce qu'on sait très bien que les abeilles, qui sont des véritables sentinelles, on le sait de la biodiversité aujourd'hui, ne sont pas toutes exactement en pleine forme. Et vous avez évidemment joué le jeu, c'était tout à fait votre intérêt. Donc, prairie fleurie, qu'est-ce que ça évoque pour vous et quels sont les bienfaits d'une prairie fleurie ?
Ah ben pour moi, ce que ça évoque, tout de suite, la prairie fleurie, c'est un feu d'artifice, quoi. Il y a des couleurs partout, on a des abeilles qui butinent. On le voit assez rapidement, finalement, quand on voit, on pose nos abeilles sur une prairie avec une grande diversité. On voit que devant la ruche, ça s'active, ça travaille, ça rend du pollen, ça rend du nectar. Et tout de suite, on a ces effluves assez fortes de ces nectars. On le sent très rapidement, quoi.
Alors Pierre, de quoi elles se régalent vos abeilles ici ?
Elles affectionnent particulièrement deux types de prairies en fait, parce que les prairies dans les Bauges, elles sont assez diversifiées.
Ouais.
On pourrait distinguer celle du Piémont, sur lequel on va retrouver des plantes plutôt de milieu sec, du sainfoin, du lotier, de la knossie, ces choses-là. Et puis en altitude, un peu plus haut sur Ayon, ou dans les alpages, elles vont trouver plutôt... de la centaurée, du géranium, enfin une diversité de fleurs qui fait que les miels sont d'ailleurs complètement différents entre le Piémont et puis le sommet des alpages.
Ouais. Ouais. Jean-François, qu'est-ce que vous regardez là actuellement ? C'est quoi comme plante encore ?
C'est une brunelle.
C'est une petite brunelle, d'accord. Alors ça veut dire que la qualité de l'herbe, on le sait, fait aussi la qualité du lait. Qu'est-ce qui caractérise le lait des Bauges ici ?
Ben justement, c'est le tout herbe, quoi. C'est la vache qui a pâturé 120 jours. C'est théorique, c'est par rapport à la OC, mais une vache, il faut qu'elle mange un maximum d'herbe. Théoriquement, elle passe du, on va dire, 8 avril au début novembre.
Dehors,
à la pâture. Voilà.
Puis elles sont bien.
Jour et nuit, si, tant qu'il est possible.
Oui, elles sont plus l'envers, quoi. Donc elles vont bien.
Quand on était à l'école, on nous a appris, à l'école d'agriculture, donc, on nous a appris que finalement, les fleurs, c'était des mauvaises herbes. On nous disait au départ, il faut du trèfle, il faut de la luzerne, il faut des régras hybrides, il faut des prairies intensives. Et puis je m'aperçois qu'aujourd'hui, on revient dans le juste équilibre. Finalement, on n'a pas si faux que ça, quoi. Alors, évidemment, ça évite tous les traitements, désherbage, tous les... Le système a voulu qu'on revienne aux vraies valeurs et puis qu'on revienne... Finalement, c'est beau, ces petites fleurs.
Voilà un petit parfum de la Savoie et de la Haute-Savoie, puisque ce parc naturel des Bauges se trouve régional, se trouve donc là-bas. Et maintenant, donc, il y a un concours pré-effleuri. Il y a à peu près 300 éleveurs donc, qui s'y mettent. Et là aussi, je crois qu'il y a valeur d'exemplarité parce qu'on en a absolument besoin. Alors, vous avez d'autres articles dans ce numéro de Terre Sauvage avec des gens qui font autrement. Ça nous emmène du côté des Basses-Vallées angevines. On voit bien sûr les circuits courts avec l'histoire des lasagnes. C'est absolument le contraire. Ce modèle complètement dément qui fait presque le tour de la Terre, donc à chaque fois on sait très bien que ça ne peut pas tenir. Et puis je vois aussi un article sur l'agroforesterie. Alors Alain Canet, vous êtes président de l'Association française d'agroforesterie, vous êtes aussi dans le département du Gers, directeur d'arbres et paysages. Que recouvre ce mot d'agroforesterie, Alain Canet?
C'est le fait de prendre en considération les arbres qui sont dans et autour des champs, qu'ils soient au-dessus des vaches, des poules, des cochons ou des céréales. On s'est rendu compte que beaucoup d'idées reçues étaient en train de tomber. On a des laboratoires de recherche importants qui nous montrent ô combien des parcelles arborées, allez, une cinquantaine d'arbres à l'hectare à peu près pour des céréales, un peu plus en élevage, amènent des services absolument considérables. Et c'est vrai que finalement, les règles de la PAC nous font presque rire parce qu'on est bien au-delà de toutes les directives. Quand on arrête le labour, quand on fait des couverts permanents, ça vient d'être dit, et quand on met quelques arbres au-dessus, et biodiversité et biomasse sont conjuguées, protection et production peuvent rimer, et ça c'est important pour nous de montrer que ben, quand on fait des canards, au-dessus on peut récolter des noix, on peut récolter du bois, protéger le bâtiment agricole, faire des paysages de qualité, avoir de l'eau de même qualité qui coule dans les ruisseaux.
Mais alors, quel est l'apport, Alain Canet, on va dire, des arbres, justement, que l'on va retrouver alors, sous forme d'alignement dans les champs, que l'on comprenne?
On va parler de grandes cultures, parce que c'est le sujet le plus compliqué. Sur l'élevage, c'est tellement évident. On double son revenu sur un élevage quand on met des arbres au-dessus. Donc ça, c'est important de le dire. Et on produit le bois du bâtiment qu'on construira dans quelques années. Mais en grande culture, aujourd'hui, on a quand même un problème qui est peu abordé dans la PAC, c'est l'état des sols. En Europe et en France, évidemment, on a dégradé les matières organiques et l'humus, hein, l'humus fertile qui permet de faire pousser du blé, des patates et puis derrière des poulets ou du cochon, on les a fait baisser. On a eu du mal en agriculture, c'est une règle générale, à stabiliser les taux d'humus qui avaient été pour la plupart créés par la forêt primaire.
Et on le rappelle, la clé du sol, c'est à la fois le champignon et l'humus.
Absolument. Hein. Et donc, cette agroforesterie, elle vise avec des techniques complémentaires, et j'insiste lourdement, c'est important, hein, il n'y a pas une technique qui est meilleure que l'autre, à stabiliser, faire remonter les humus. Le sol n'a pas besoin de repos, le sol n'a pas besoin de compost, le sol n'a pas besoin de travail. Et on s'inspire librement, je dis bien librement, mais ce n'est pas aussi simple que ça, mais le principe est de dire, mais dans la forêt, j'arrose pas, je ne mets pas d'engrais, je ne mets pas de terreau, je ne mets pas de compost, je ne laboure pas, je bine pas, et pourtant l'été ça pousse encore, et pourtant ça pousse tout le temps, et ça produit une biomasse absolument phénoménale. Et bien en agroforesterie, on couvre les sols, on les occupe en permanence, on a donc ces légumineuses et toutes les plantes associées, des cultures de céréales, etc., etc., et puis quelques arbres, et ce complexe-là n'est plus en compétition, mais en symbiose. Les arbres vont, par la décomposition des racines, par l'apport des feuilles, par la protection climatique, aider les cultures à pousser. Ben, les cultures sont un petit peu à l'ombre dans la journée, mais finalement, c'est comme nous, ça les protège, ça les aide. Et il y a vraiment cette complémentarité. Les systèmes racinaires des arbres agroforestiers sont très profonds, donc ils ne viennent vraiment pas en compétition pour quelque élément nutritif que ce soit et pour l'eau. Avec les cultures, les résultats sont très intéressants, puisque dans une parcelle agroforestière, ben, on produit 30-40% de biomasse en plus, avec beaucoup moins d'intrants, puisque les abeilles, les carabes, les cirfs reviennent, les chauves-souris aussi qui viennent épurer des insectes ravageurs.
Pascal Ferré, pour la FNSEA, est-ce que l'on peut promouvoir un jour, est-ce qu'on aura un système qui sera plus respectueux de l'environnement tout en renforçant les performances des agriculteurs? On parle maintenant, alors est-ce que c'est fait d'annonce ou pas, d'agriculture écologiquement intensive. Et en même temps, on se rend bien compte, alors c'est vrai qu'on a eu des conditions climatiques qui n'étaient pas simples, donc on a encore déversé davantage de pesticides en 2012 et aussi en 2011.
Est-ce que vous m'autorisez à vous reprendre sur un mot?
Au contraire.
Déverser des tonnes de pesticides. Denis Chessou, je voudrais quand même rappeler, au moins pour nos auditeurs, mais vous le savez mieux, quiconque, vous m'avez provoqué, si on utilise des pesticides d'aujourd'hui, c'est pas pour le plaisir, effectivement, d'enrichir les firmes.
On est d'accord.
C'est un besoin. Donc la France, alors, est cataloguée dans les gros pays producteurs, consommateurs de pesticides, mais c'est aussi le pays où la production agricole est la plus diversifiée. Je ferme la parenthèse. Oui, je suis très optimiste parce que l'agriculture est en train d'évoluer. Les agriculteurs évoluent parce que, par nature même, par essence même, on est aujourd'hui dans une situation où effectivement l'irréversibilité d'un certain nombre de territoires est en train de se mettre en place. Et donc il faut absolument corriger les affaires. Vous avez parlé de la prairie permanente. Oui, il faut la préserver parce que c'est un réservoir absolument extraordinaire. Mais encore faut-il que quand ceux qui ont de la prairie permanente ont des vaches, que ces vaches permettent d'avoir un revenu. Et est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la sanctuarisation de la prairie permanente devient le paradigme ou l'alpha et l'oméga de l'agriculture? Non, il faut que les agriculteurs puissent continuer d'assumer l'autonomie alimentaire par un peu de céréales, un peu de maïs. C'est pas un gros mot de le dire. Par contre, c'est vrai que quand j'entends aujourd'hui des agriculteurs s'opposer à toute forme de verdissement en disant c'est idiot, mais là par contre, je pense qu'ils n'ont pas compris dans quelle société nous allons. Est-ce que les agriculteurs modernes souhaitent? Il faut effectivement oublier les mauvaises pratiques d'il y a 20 ou 25 ans où il faut les nourrir pour nourrir. Aujourd'hui, il faut concilier trois choses. La première chose, c'est continuer l'objectif premier, de nourrir une population. La deuxième, c'est de protéger notre environnement. Et au sens large du terme, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, il y a un endroit qu'on ne regarde pas suffisamment, c'est le sol. Oui. Le sol, c'est 30 cm de terre arable qui nourrit la population. Et bien, on s'occupe de tout sauf de cela. Et je pense que là, la modification des pratiques agricoles, que ce soit dans le cadre de l'agroforesterie, dans le cadre de la rotation des cultures, ça doit se faire en donnant de la progressivité, donner du temps au temps. Il faut aussi, c'est un point qu'on n'évoque pas suffisamment, que nos lycées agricoles, que nos centres de formation aussi changent les pratiques de formation.
Ah oui.
et que nous allions sur le développement durable. Ce n'est pas un gros mot que de le prononcer. Et c'est au travers de ça, sur moins de 10 ans, on peut changer la totalité de la physionomie de la productivité agricole. Parce que la production agricole n'est pas un gros mot. Il faut effectivement continuer de produire un peu plus, mais pas en détricotant notre environnement. Enfin, le débat entre l'agriculture conventionnelle et l'apiculture est un débat qui me fait mal à la tête, parce que tout le monde sait que sans apiculture digne de ce nom, il n'y a plus effectivement de production végétale digne de ce nom. Ce qu'il faut, c'est réconcilier. Alors, on rappelait que la France a été pionnière. Oui, elle était pionnière, par exemple, dans les bandes enherbées. Sauf qu'on a fait des bandes enherbées le long des cours d'eau, le long des routes, des bandes enherbées un peu idiotes. Elles ne servent à rien, si ce n'est que d'éviter l'érosion. Ça, c'est une bonne méthode. Si on peut demain les rendre attractives par des productions mielifères ou par des productions autres,
ce sera gagnant pour tout le monde.
Mais bien sûr, c'est gagnant pour l'agriculture, c'est gagnant pour la biodiversité, mais c'est gagnant pour la société dans son ensemble.
José Bové.
Moi, je pense qu'à travers la discussion, là, on voit bien que le débat dans lequel on est, c'est un débat sur la légitimité. Je crois qu'il faut savoir quelle est la légitimité d'un soutien à l'agriculture. Aujourd'hui, c'est vrai, chacun sait que chaque citoyen européen verse 106 euros, en gros 100 euros, pour financer cette politique agricole commune. Et un, il veut savoir où va son argent. Deux, si ça va permettre de satisfaire son alimentation, avoir une alimentation de qualité et une agriculture qui protège l'environnement. C'est cela que veut le citoyen. Et d'ailleurs, il y a une étude qui avait été faite au niveau européen, qui avait été commandée par le commissaire européen Dacian Ciolos, et qui avait montré que c'était effectivement les objectifs que cherchaient les citoyens européens. Alors, est-ce que ce qui est en train de se mettre en place va permettre de le satisfaire ou pas? Moi, j'ai un certain nombre d'inquiétudes. On a parlé assez rapidement, dans le cadre des 30% de mesures de verdissement, la question de la rotation des cultures. Si la rotation des cultures n'est pas dans le projet, en gros, le navire de l'agriculture européenne ne va pas changer de cap. Or, c'est une question essentielle. On ne peut pas continuer à faire de l'élevage en Europe en important 85% des protéines végétales. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les animaux sont nourris avec du soja qui vient d'Amérique du Sud ou des États-Unis, c'est complètement artificiel. Donc là, il faut avoir une cohérence entre notre territoire et notre élevage. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement français, il y a 3 ans, avait fait une étude qui montrait qu'en 5 ans, on pouvait diminuer par 2 les importations de soja si on était capable de reconvertir 7% des terres en faisant des protéines végétales. Donc la nécessité aujourd'hui de la rotation des cultures, c'est une question environnementale pour l'eau et les sols, moins de pesticides, moins d'engrais. C'est une question aussi pour l'autonomie de l'agriculteur, parce qu'il dépensera moins en intrants. Et c'est troisièmement une formidable chance pour la balance commerciale agricole européenne, qui était aujourd'hui déficitaire à cause de ces importations.
Samuel Ferré, donc coordinateur du groupe PAC 2013, je le rappelle.
Effectivement, dans les trois prochaines semaines, en lien avec d'autres réseaux européens, nous appelons les citoyens et leurs associations à se mobiliser pour qu'ils aillent rencontrer leurs députés européens et qu'ils les interpellent sur les enjeux de ces votes de la réforme de la PAC en session plénière du Parlement. Parce que si le Parlement est associé à la réforme, et c'est la première fois dans son histoire, donc c'est un mieux dans l'absolu puisqu'on démocratise un petit peu plus les débats sur la réforme de la PAC, mais il faut aller au bout de l'exercice et que le Parlement représente au mieux l'intérêt général de l'Union européenne.
Merci à tous pour ces décryptages qui pourraient durer, mais c'est possible hein, sur le site de CO2 Mon Amour. Bah, allez-y, ne vous gênez pas. Et puis il y a de très très nombreux liens. Le site a été nourri par Anne Gouzon tout à fait magistralement, il faut bien le dire. Merci à Jean-Baptiste Audibert qui a choisi les disques, à mon camarade du Maine-et-Loire, Albert Houck, pour le petit coup de main également, à Vincent Godard, Ronan Maé à la technique, à Stéphane Combe, notre assistant, à Christophe Imbert qui réalisait cette émission. Je vous renvoie donc à ce numéro de Terre Sauvage de février, Les Nouveaux Paysans réinventent l'agriculture, et puis une revue très intéressante qui s'appelle la revue Projet, éclairer l'avenir, agriculture, écologie pour tous. Je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve la semaine prochaine, la tue du Mont Petit Loup, ce sera demain à 19h54. Et sans plus tarder, bah, vous allez suivre Clara Dupont-Mounot qui vous attend avec ses chics livres. Ouais, France Inter, il est 15h.